Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, j'espère que vous allez bien en ce jour béni que le Seigneur nous donne. Eh bien, nous avons aujourd'hui, dans cette fête de Saint Timothée et Saint Tite, la grâce de pouvoir nous laisser toucher par la sainteté de ceux et celles qui nous précèdent, de ceux et celles qui ont vraiment donné toute leur vie au Seigneur Jésus et qui ont permis au Seigneur Jésus de prendre toute la place dans leur vie. Aujourd'hui, nous poursuivons notre catéchèse sur ce que ça veut dire Jésus, Fils de Dieu, et bien sûr, en essayant de voir un petit peu les aspects concrets aussi dans notre vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Hier, nous avons parcouru les évangiles synoptiques de Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu ce qui se passe du côté de l'Évangile selon Saint Jean. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Figurez-vous que, dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus fait constamment référence à Dieu comme son Père, comme le Père. Dans tout le Nouveau Testament, il y a 261 fois où Jésus appelle Dieu le Père, dont 141 fois dans saint Jean. Le Père, tout est là. Le Père dont il s'appelle le Fils. Non pas un fils, un des fils, le Fils. Et la première fois qu'il parle de Dieu comme son Père, c'est quand Jésus va à Jérusalem pour la première Pâque. Dans ses 3 années de vie publique, parce qu'il est allé souvent à Jérusalem, bien sûr, et dans ce passage extraordinaire où Jésus va chasser les vendeurs de colombes, et il va dire « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père ». Une maison de commerce, le temple de Jérusalem, que Jésus appelle la maison de mon Père. À la Samaritaine, toujours dans l'Évangile selon saint Jean, dans le chapitre 4, Jésus affirme que le Père, cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et que l'heure est venue, frères et sœurs, d'adorer le Père. Mais nous adorons Dieu. Oui, nous adorons Dieu. Nous adorons qui ? Dieu, un seul Dieu, en 3 personnes. Nous pouvons donc adorer Jésus, bien sûr, parce que, justement, Jésus est en train de révéler qu'il est le Fils de Dieu. Et non pas d'une manière générale, d'une manière tout à fait particulière. Nous avançons. Nous pouvons adorer l'Esprit de Dieu qui est Dieu lui-même, et nous pouvons adorer cette première personne de la Sainte Trinité, la personne divine du Père. C'est bon, frères et sœurs, je ne sais pas si vous pratiquez cela, mais c'est bon non seulement d'appeler Dieu quand vous priez, dites « Notre Père » comme nous avons entendu hier dans l'Évangile selon saint Matthieu, mais adorer Dieu, adorer le Père, remettre votre vie entre les mains du Père, tout recevoir de la personne divine du Père. Frères et sœurs, nous sommes chrétiens, si nous sommes chrétiens, parce qu'il n'y a pas que des chrétiens qui écoutent Radio Maria, mais si nous sommes chrétiens, nous sommes devenus le temple de la Sainte Trinité, le temple du Saint-Esprit, de cet Esprit de Jésus qui est répandu dans notre cœur et qui crie « Abba, Père ». Nous sommes devenus le temple de la présence des trois personnes divines. Jésus est en nous, car Jésus est le temple. Dans ce passage où Jésus chasse les vendeurs du temple, justement, il se révèle. Il révèle non seulement que le temple, c'est la maison de son Père, mais lorsqu'il parlait du temple, « Détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai », il parlait de son corps. De son corps. Le temple nouveau, c'est le corps du Christ. Le corps physique de Jésus, dans lequel il y a cette âme unie substantiellement à son corps, l'âme humaine de Jésus, son cœur humain, qui est ce temple où se vit la véritable prière, la véritable adoration. Quand Jésus dit « Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité », c'est pour que nous apprenions à adorer par Jésus avec lui et en lui, dans le Saint-Esprit, la personne du Père. C'est si grand ce que Jésus est en train de nous dire. Il est en train de nous dire qu'en Dieu, il y a l'adoration, il y a la louange, l'action de grâce, il y a une vie en Dieu. Et que cette vie nous est donnée. Et que le Père, donc le Fils, donc le Saint-Esprit, parce qu'ils sont tout le temps d'accord, tout le temps ensemble, dans ce même vouloir. Et quand Jésus nous dit « Le Père cherche des adorateurs en esprit, en vérité », eh bien, ça veut dire aussi que Jésus, le Fils, cherche des adorateurs. Que l'Esprit-Saint cherche des adorateurs. Et qu'il veut nous apprendre à adorer comme il faut, à adorer comme le Fils. Car le Fils, c'est véritablement, dans son humanité, adorer le Père. Dans toujours Saint Jean, chapitre 5, après avoir guéri l'infirme à la piscine de Bethesda, le jour du sabbat, il déclare aux Juifs « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et j'œuvre moi aussi. » Aussi, les Juifs n'en cherchaient que davantage à le tuer, puisque, non content de violer le Shabbat, il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant l'égal de Dieu. Car voilà bel et bien la difficulté, ou plutôt le grand mystère. C'est que Jésus est en train de révéler que Dieu est le Père, son Père, mais qu'il est le Fils. Alors s'il est le Fils, alors il est quoi? Une petite créature favorisée? Un super-homme? Non. Les Juifs comprennent qu'en parlant ainsi, il se fait l'égal de Dieu. Pourquoi? Parce que le Shabbat est un moment qui est donné pour l'homme. Le Shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Le Shabbat est fait pour l'homme pour qu'il se repose après l'œuvre qu'il a accomplie et qu'il retouche à quel point son origine, c'est Dieu, comme créateur. À quel point Dieu est présent pour que l'homme puisse se reposer en Dieu comme Dieu aime se reposer en l'homme. Et c'est perpétuel. L'institution du Shabbat est perpétuelle car il s'agit bel et bien pour l'homme de se reposer en Dieu, de se poser à nouveau, de justement remettre toutes ses activités de la semaine, toutes ses activités du jour, toutes ses activités tout court, ce qu'il fait, ce qu'il pense, ses actes, ce qu'il vit. Et sa personne entre les mains de Dieu. Saint Paul nous dira dans Romains 12, la véritable adoration consiste justement à tout donner, à tout consacrer à Dieu, à tout remettre à Dieu. Il nous faut apprendre à remettre les choses en Dieu pour apprendre à les recevoir de nouveau. Le Père m'aime parce que je dépose ma vie pour la recevoir de nouveau. Et ce Shabbat est très important. C'est pédagogique, mais c'est le Shabbat qui donne le ton de la semaine. Pour les Juifs, pour nous, c'est la résurrection. Pour nous, les chrétiens, le Shabbat est accompli en Jésus. Mais quand Jésus dit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et j'œuvre moi aussi », Jésus clairement se met égal à Dieu. Car qui œuvre ? Si le Père œuvre, on est tous d'accord pour dire que Dieu œuvre, il est le Créateur, que Dieu agit dans l'histoire, il a sauvé son peuple d'Égypte, il l'a accompagné jusqu'en terre promise, Dieu agit. On est tous d'accord, tous les croyants sont d'accord pour dire que Dieu agit, Dieu est vivant. Mais quand Jésus dit non seulement « mon Père », enfin Dieu, mais c'est mon Père qui est à l'œuvre, qui agit, qui agit dans ta vie jusqu'à présent, et j'œuvre moi aussi, c'est une révélation de sa divinité. Ils ont bien compris que non seulement, non content de violer le Shabbat, il l'appelait encore Dieu, son propre Père, se faisant égal à Dieu. Ils ont bien compris. Mais leur cœur est endurci. Alors, entre les versets 19 et 47, tout le reste du chapitre 5, d'ailleurs, l'évangile selon saint Jean, Jésus enfoncera le clou, si je puis dire, révélant la profondeur de sa relation au Père, ce Père qu'il a envoyé, qu'il aime, qui a tout remis dans sa main, dont le pouvoir de donner la vie, notamment de ressusciter les morts et d'exercer le jugement selon ce qu'il entend au Père, etc., etc. Et nous voyons dans l'évangile selon saint Jean l'opposition à toute cette révélation de Jésus comme fils de Dieu égal au Père, et bien qui se fait de plus en plus grande, profonde, violente, au fur et à mesure que la lumière se fait davantage intense et claire, puissante, et bien les cœurs s'endurcissent. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres, parce que celui qui vit dans les ténèbres de son intelligence, de sa volonté, de son cœur, il préfère choisir les ténèbres. Pourquoi ? Parce qu'il y a un confort. Il y a un confort du pécheur. Oui, le pécheur aime se complaire dans sa médiocrité, dans sa bassesse, parce que ce sont des domaines qu'il gère et qu'il connaît. Il n'aime pas la lumière, il n'aime pas venir à la vérité. Celui qui fait la vérité vient à la lumière, mais celui qui est dans les ténèbres, il n'aime pas la vérité, il n'aime pas ce qui est clair, il n'aime pas la lumière, il préfère rester planqué. Il préfère avoir une double vie et être hypocrite, c'est-à-dire devant les hommes, tout va bien, madame la marquise, mais devant Dieu, on se cache. Où es-tu, Adam ? Où es-tu ? J'ai entendu tes pas dans le jardin, j'ai eu peur et je me suis caché. Et voilà, car quand Dieu vient le soir, ce n'est pas pour condamner, pour frapper, mais c'est pour relever, pour appeler, appeler à la conversion. Reviens, mon fils, reviens. Mais le fils a peur et il préfère rester planqué. Alors, on voit tous les stratagèmes d'amour que le Seigneur utilise pour venir chercher et sauver ce qui était perdu. Et Jésus va continuer dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 6. Il va même nous dire que c'est lui, le Fils de l'homme, que le Père a marqué de son sceau. Et aux Juifs qui se posent la question, mais celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le Père et la Mère ? Comment peut-il dire maintenant, je suis descendu du ciel ? Eh oui, problème. On l'a vu. Enfant, à Nazareth, on connaît Joseph, on connaît la famille, le clan familial. On a joué avec lui, on a été à la synagogue, il a grandi. Très gentil, très magnifique, magnifique jeune homme. Mais comment peut-il dire maintenant je suis descendu du ciel? Car voilà que quand Jésus commence à dire je suis descendu du ciel, c'est pour nous faire passer un rapport à lui dans la foi. Pour que les gens qui l'ont côtoyé dépassent l'aspect simplement naturel des choses et des relations, de la relation qu'ils avaient avec lui. Il faut passer en régime de foi, il faut passer en regard de foi. Tous ceux et celles qui ne regardent pas Jésus avec un regard de foi passent à côté du mystère de Jésus. C'est aussi simple que ça. Jésus répond qu'il vient du Père qu'il a envoyé et par qui il vit. Ah, je vis par le Père. Jésus dit, moi je vis par le Père. Personne d'autre ne peut dire ça. Sauf, évidemment, ceux et celles qui sont en Jésus, après coup, après la Pentecôte. Mais là, dans l'Évangile, on n'avait jamais entendu une telle parole. Je vis par le Père. Le Père attire les hommes vers Jésus. Tous ceux qui écoutent le Père, tous ceux qui se laissent enseigner par le Père, tous ceux qui sont à l'école du Père, eh bien tout cela, ils viennent à moi, dit Jésus. Donc le Père attire les hommes vers Jésus, qui les ressuscitera au dernier jour. Et dans ce fameux chapitre 6, selon saint Jean, Jésus annonce qu'il donnera sa chair à manger, son sang à boire, lorsqu'il sera monté là où il était auparavant. Ah bon ? Il est descendu du ciel et il montera là où il était auparavant. Alors là, c'est clairement, frères et sœurs, l'affirmation, la révélation de sa divinité. Merci Jésus de nous dire les choses de telle manière que nous puissions les accueillir, y consentir, y croire et nous laisser attirer. Merci Jésus pour toutes ces paroles qui sont encore d'actualité car tes paroles sont esprit et elles sont vie et nous pouvons nous emparer aujourd'hui. Aujourd'hui, ta parole est vivante. Aujourd'hui, ce que tu as prononcé il y a 2000 ans à Capharnaüm, dans cette synagogue, une parole de Dieu qui a traversé ton cœur et qui est sortie par tes lèvres et qui nous rejoint aujourd'hui, portée par ton souffle. Elle porte en elle, ces paroles, des puissances de vie, des puissances de résurrection. Il suffit pour cela, frères et sœurs, que nous accueillions la parole de Jésus avec foi, avec amour, et que nous dépassions simplement l'aspect de l'exégèse. Il a dit ça dans un tel contexte. Hein ? Pourquoi pas remettre les choses dans leur contexte ? Et c'est vrai, lorsqu'on va en Terre Sainte, par exemple, c'est magnifique. Capharnaüm, par exemple, personnellement, m'a beaucoup marqué, d'ailleurs. On voit les ruines de la synagogue, on voit la maison de Saint-Pierre. Quand il rentrait, quand il arrivait à la maison, d'ailleurs, nous disent les évangiles, à la maison, c'est chez Simon. Capharnaüm. Avec la mer, on s'imagine très très bien les choses, on visualise les choses. Et ceux et celles qui peuvent aller en Terre Sainte, vraiment, je recommande, c'est extraordinaire. Ça met sur les évangiles, des couleurs, un aspect très concret. Le Fils de l'homme a marché sur cette terre, le Fils de Dieu a parlé. Le Fils de Dieu était dans des lieux, il s'est assis, il s'est accroupi, il s'est allongé, il s'est agenouillé, il a vécu parmi nous. Et les témoins de Jésus sont les témoins de sa vie, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Les apôtres, lorsqu'il s'agira de remplacer Judas, ils vont prendre pour remplacer Judas quelqu'un qui a été témoin de ces choses, qui a vu et entendu. le Fils de Dieu parle. Il a parlé, mais comme c'est Dieu qui parle, eh bien ces paroles qu'il a prononcées, par exemple, encore une fois, dans cette synagogue de Capharnaüm, ce qu'on appelle le discours du pain de vie. Mais plus qu'un discours, ce sont des bombes de vie. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Waouh ! Alors, au chapitre 8, la question du Père revient avec plus de force et Jésus, tel devant Judas, donne aux Juifs endurcis encore une chance. Il lui disait donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Frères et sœurs, si on prend ces paroles simplement d'une manière descriptive et simplement, bon, comme un récit quelconque, on se dit, bon, il a été pas compris, hein. C'est beaucoup plus profond que cela. Par ces paroles, quand Dieu parle, quand Jésus parle, c'est toujours parce qu'il l'entend auprès du Père. Il ne dit rien de ce qu'il entend d'abord auprès du Père. Tout ce qu'il entend auprès du Père, il le dit. Et quand il le dit, c'est que c'est à dire. Et quand il se tait, c'est qu'il a à se taire, tout simplement. C'est toujours dans la volonté du Père que Jésus parle. Donc ce n'est jamais pour condamner. Et quand il met le doigt sur les ténèbres, sur le péché, sur l'endurcissement du cœur, c'est pas pour enfoncer le clou et condamner les gens, c'est pour au contraire que devant une parole de lumière, une parole de vérité, il y ait encore un petit coin de bonne terre dans le cœur de l'homme, créé par cette parole de Jésus qui est la parole créatrice quand même. N'oublions jamais que ce Jésus qui parle est aussi le créateur et qu'il crée tout par sa parole. Il y a donc une trace dans la créature humaine, comme une espèce de caisse de résonance que quand le Verbe se fait chair et se met à parler avec un langage humain, en araméen, en hébreu, eh bien que la créature dit « Tiens, ça me dit quelque chose. C'est drôle, mais celui qui me parle, ça me touche, ça me percute. Pourquoi ? Mais c'est normal, parce que nous avons été créés par la parole de Dieu, qui est créatrice. » Alors, entre la créature que nous sommes et notre petit cœur malade, eh bien, quand Jésus parle, c'est pour toucher un coin, un petit coin en nous, pour que nous puissions dire « Ah oui !» Un petit oui. Un petit oui de rien du tout. Un petit « Oh !» Ah, ça bouge et je viens, je reviens. Et donc ce sont toujours des paroles de bénédiction, toujours des paroles pour faire revenir notre cœur à lui. Jésus va donc préciser que ceux et celles qui sont là devant lui, son auditoire, n'a ni Abraham, ni Dieu comme père, mais bien Satan. Comment ça se fait ? Au contraire de lui qui est plus grand qu'Abraham et qui se révèle par trois fois comme Dieu, utilisant le nom révélé à Moïse en Exode 3. En Exode 3, rappelez-vous, je suis, le nom de Dieu révélé à Moïse. Eh bien, dans ce 8e chapitre de l'Évangile selon saint Jean, Jésus dit « Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, eh bien, vous mourrez dans vos péchés. » Juste après, Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. » Et plus loin, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, je suis. Alors là, on ne peut pas faire plus clair. Dire par trois fois « je suis », en plus, trois fois, vous comprenez? C'est une référence claire à la révélation du nom de Dieu. Jésus se révèle comme Dieu. Et un peu plus loin, il va encore pousser le curseur très très haut. Quand Jésus dira, au chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Frères et sœurs, c'est tellement insoutenable que les Juifs veulent une nouvelle fois lapider Jésus. La raison est claire. Jésus leur dit alors, « Je vous ai montré quantité de bonnes œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. » C'est cela que le grand prêtre Caïphe va exprimer. Il a blasphémé, il mérite la mort. Comme avec Judas, Jésus essaie jusqu'au bout de les toucher, mais à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde. Vous dites, tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu ? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ses œuvres, afin de reconnaître une bonne foi, écoutons bien, que le Père est en moi et moi dans le Père. Alors là, magnifique. Il nous faut revisiter notre lien avec Jésus. Il nous faut vraiment reconnaître à nouveau la divinité de Jésus. C'est très important en ces temps que nous vivons, en cette période que nous traversons. Renforcer notre foi en la divinité de Jésus. Car il y a beaucoup d'attaques sur la divinité de Jésus à l'époque que nous traversons. Que Jésus soit un grand homme, eh bien tout le monde est d'accord là-dessus, vous voyez. Ah oui, que l'évangile soit magnifique, tout le monde peut être d'accord, il suffit d'être un peu littéraire et aimer les belles choses, les beaux livres. L'évangile est un livre passionnant, qu'on ait la foi ou pas. Et pour les non-croyants, c'est très intéressant, la Bible. Mais tout ceci a été écrit pour que vous ayez la foi. Et qu'en ayant la foi au Fils de Dieu, vous ayez la vie en son nom. C'est pourquoi l'Évangile a été écrit. C'est pour que vous ayez la foi dans le nom du Fils de Dieu. En croyant que Jésus est Dieu, eh bien nous entrons dans le royaume de Dieu. Si on ne croit pas que Jésus est Dieu, on reste en périphérie du royaume de Dieu. Pour terminer, chers frères et sœurs, je voudrais dire que ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est Jésus qui nous a parlé du Père. Jésus a révélé le Père sans cesse. Nous avons intégré qu'il était un avec le Père et que le Père est en lui et que lui, il est dans le Père et que dans cette unité que l'Église va scruter et désenvelopper comme mystère au long des siècles, eh bien, cette divinité de Jésus affirmée va être le trésor de l'Église. Et pour terminer, je voudrais vous dire aussi que dans l'Évangile, nous voyons que non seulement Jésus révèle le Père et révèle qu'il est le Fils du Père, mais le Père intervient aussi. Le Père nous révèle que Jésus est son Fils. C'est le Père lui-même qui sort de son silence pour nous révéler que Jésus est son Fils, par trois fois, trois moments plus précisément, au baptême de Jésus au Jourdain, Aussitôt remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'esprit comme une colombe descendre vers lui, et une voix vint des cieux. « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » À la transfiguration, et une voix partit de la nuée qui disait « Celui-ci est mon fils, l'élu, écoutez-le. » Et une troisième fois, lors du retour, après le retour à la vie de Lazare, dans le chapitre 12 de Saint Jean, Jésus dira « Père, glorifie ton nom. » Du ciel vint alors une voix « Je l'ai glorifié et de nouveau je le glorifierai. » La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait qu'il y avait eu un coup de tonnerre, d'autres disaient « Un ange lui a parlé. » Jésus reprit « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. » Car oui, frères et sœurs, le Père glorifie Jésus sans cesse, c'est-à-dire la gloire, Jésus, la splendeur de la gloire du Père, et toute la splendeur de la gloire du Père se reflète, se réfracte dans l'humanité sainte de Jésus. Mais je l'ai glorifié, le Père glorifie son Fils. Et comme Jésus priera dans Jean 17, « Père, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Le Père dit « De nouveau, je le glorifierai. » C'est-à-dire que non seulement la personne du Fils unique de Dieu glorifie le Père, mais tous ceux et celles qui sont en Jésus, eh bien, seront des lieux, des hauts lieux de la révélation du Père. Le Père veut glorifier les fils et les filles bien-aimés que nous sommes devenus. Il veut continuer à être glorifié à travers notre vie d'enfant. Comment est-ce que, frères et sœurs, nous manifestons la paternité de Dieu? Eh bien, c'est en vivant comme des fils et des filles bien-aimés du Père. Ce sont les enfants qui révèlent la paternité. Un homme, il est époux et puis c'est en ayant des enfants qu'il apprend à être père. C'est devant le concret de la présence des enfants qu'il découvre qu'il y a en lui des sources inexplorées, qu'il apprend à être papa. Eh bien, de manière analogue, c'est à nous, enfants, de révéler le Père, de pousser le Père dans ses retranchements, si je puis dire ainsi, de dire « Père, je veux te glorifier, je veux que toute ma vie aujourd'hui parle, révèle ta bonté, ton amour, ta miséricorde, que tout dans ma vie, en Jésus, et ce n'est qu'en Jésus que cela se passe, eh bien, Père, tu sois glorifié et que tu puisses dire, j'ai glorifié mon Fils unique, mais je le glorifie encore en tous ceux et celles qui sont devenus en lui, mes fils, mes filles bien-aimées. Amen. Alléluia. » Et je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.